Nous avons donc... D'abord, j'aimerais vous dire combien je suis heureux de me trouver parmi vous de nouveau, et ça me fait vraiment très plaisir. Ensuite, nous avons cette espérance extraordinaire dont on parle de temps en temps, dont on a beaucoup, beaucoup parlé dans les années 70, 80, 85, le retour du Seigneur Jésus-Christ avec les événements qui ont eu lieu, donc... en Israël, avec la guerre des six jours, la guerre du Kippour, etc. Et je me souviens, beaucoup de chrétiens disaient « Ah, mais le Seigneur va revenir, le Seigneur va revenir ». Et puis on en a tellement parlé qu'on en parle un peu moins. Mais néanmoins, c'est dans les Saintes Écritures, c'est un enseignement, et qui est un enseignement bienfaisant, puisque cet enseignement du retour de Jésus-Christ est là pour compléter harmonieusement compléter la certitude de notre salut, compléter évidemment notre marche avec le Seigneur, notre relation intime avec lui, et apothéose des apothéoses, c'est évident que nous attendons son retour, parce que si le Seigneur ne revenait pas pour chercher son Église, eh bien il manquerait quelque chose, et c'est impensable que Dieu n'ait pas pensé à tout. Et évidemment, le retour de Jésus-Christ est quelque chose de très important pour les chrétiens au quotidien. Le salut donc, que Jésus a acquis pour son Église, il contient évidemment un événement futur, puisqu'il est dit qu'en Éphésiens chapitre 5, verset 27, il est dit que le Seigneur va faire paraître devant lui cette Église avec un E majuscule, donc l'Église universelle, c'est-à-dire vous, tous les autres chrétiens qui ne sont pas ici, sur toute la surface de la terre et moi-même, eh bien, le Seigneur va faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ça, c'est notre espérance qui est liée justement au retour du Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, quand le Seigneur va faire paraître devant lui son Église, ce sera l'achèvement ou l'accomplissement total du salut de ceux que Dieu a prédestinés, comme le dit Paul aux Romains au chapitre 8, verset 29, ceux que Dieu a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'apôtre Jean, dans sa première épître, va affirmer la même vérité. Il va dire « ce que nous serons » n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, donc le Seigneur, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Donc l'affirmation de cette vérité, de paraître devant le Christ au moment de son retour, son Église va être enlevée, eh bien, elle entraîne effectivement un comportement au quotidien. Notre destinée est celle que les Saintes Écritures viennent de décrire, et par voie de conséquence, cette espérance en lui, ceux qui espèrent en lui se purifient comme lui-même est pur. C'est l'objectif de nos vies. Nous ne sommes pas sur la terre simplement pour partager l'Évangile, mais nous sommes sur la terre pour vivre à l'image de Dieu dans nos corps mortels, et avec ce souci de plaire, comme disait l'apôtre Paul, son souci permanent de plaire à son Sauveur et Seigneur, en attendant la manifestation glorieuse donc, de notre grand Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il sera manifesté, nous disent les Saintes Écritures. L'espérance de l'Église, évidemment, c'est voir Jésus qui reviendra dans la gloire de la majesté. C'est sûr qu'on va participer à cela. La Bible nous dit « Les rachetés aspirent à la réalisation de leur salut en attendant, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître à Tite, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. J'ai discuté, j'ai été invité cette semaine avec d'autres pasteurs à rencontrer un des candidats, enfin une candidate aux élections municipales, donc bientôt là. Et en discutant avec ce candidat, cette candidate, à un moment donné, il y a certains pasteurs qui ont dit « Mais voilà, On aimerait pouvoir disposer de certaines salles pour faire des rencontres. On n'a même pas de lieu en cas de décès d'un chrétien évangélique, à de lieux décents pour justement accompagner cette personne et la famille dans ce deuil, etc. Et alors, cette candidate ne semblait pas être particulièrement sensible aux chrétiens évangéliques ou aux chrétiens en général. Et alors, à un moment donné, je lui ai dit, vous savez, dans le 12e arrondissement de Paris, où j'exerce mon ministère, je lui ai dit, vous savez, un jour, on a rencontré les autorités de la mairie qui nous ont dit, à l'occasion de la fête de la musique, que nous occupons le kiosque de la musique du 12e, place de la Nation, depuis les débuts, il y a plus de 20 ans maintenant. Tous les ans, nous allons de la musique. Et alors, il y a deux mois après, nous avons été convoqués par les autorités chargées des festivités du 12e, qui nous ont dit, écoutez, vous pouvez chanter du gospel, mais il n'est pas question de faire du prosélytisme, de proposer la Bible, parce qu'on avait des stands bibliques, et puis il y a plusieurs centaines de personnes qui passent le soir, là, et donc on s'est jamais gêné pour leur partager donc, l'Évangile. Et alors, en regardant cette personne, il y a un jeune chrétien, il a une trentaine d'années, il a dit, mais vous savez, madame, le gospel... Ça veut dire bonne nouvelle. Donc quand on offre une Bible, on offre l'histoire du gospel. Donc si vous nous autorisez à chanter le gospel, permettez-nous d'offrir le livre qui parle de l'espérance, de la bonne nouvelle du gospel. Et alors bon, elle était un petit peu surprise, elle ne savait pas que le gospel ça voulait dire bonne nouvelle. Et puis le jeune chrétien là, de 30 ans, il lui dit, mais vous savez, les chrétiens, ce sont des citoyens excellents. Parce que les chrétiens, nés de nouveau, ils prient pour vous, pour les autorités. Ensuite, les chrétiens nés de nouveau, et les autres chrétiens d'une manière générale, sont des gens honnêtes, sont des gens courageux, sont des gens solidaires, sont des gens généreux, communiquent les valeurs, sont là pour soutenir ceux qui sont dans la peine et sont à l'initiative de toutes sortes d'actions sociales. Alors, il lui dit, mais vous n'êtes pas sans savoir que la Croix-Rouge a été développée par un chrétien, Henri Dunant. Alors, Et il a dit, mais est-ce que par hasard, vous voudriez ne pas avoir de tels citoyens dans votre arrondissement? Des citoyens de cette qualité-là? Alors, elle a dit, bon, distribuez vos Bibles, n'en parlons plus. Souvent, en tant que chrétiens, nous baissons la tête comme s'il y avait un complexe, comme si nous étions minoritaires, alors que nous ne le sommes pas, quelque part. Le peuple chrétien est plus nombreux que les étoiles dans le ciel et que les grandes sables sur le bord de la mer. Donc, vous imaginez, milliards, hein, la postérité d'Abraham, c'est le peuple le plus nombreux. Et souvent, nous, au XXIe siècle... On est un peu embarrassé, on n'ose pas expliquer qui nous sommes et faire en quelque sorte ce qu'on appelle de l'apologétique chrétienne, défendre la foi et les valeurs qui sont les nôtres, valeurs que la République essaye de développer de toutes ses forces, mais évidemment, l'humanisme ne peut pas changer les cœurs et les âmes. Et donc, ce retour de Jésus-Christ, c'est du même ordre. Qui possède sur cette terre une espérance aussi splendide que l'espérance chrétienne avec le retour du Christ? Mais personne. Personne en dehors des vrais chrétiens ne possède une telle espérance. Et c'est pour ça que c'est l'espérance de l'Église. Et Jésus donc a prévu, il l'a annoncé lors de sa vie sur la terre, Jésus a clairement prédit son retour. Et si sa première venue se fit dans l'obscurité, pour souffrir pour notre salut, en étant méprisé et abandonné des hommes, comme le rapporte Ésaïe au chapitre 53, la Bible nous affirme que son retour se fera dans la révélation de sa gloire et la manifestation de sa puissance. Le Seigneur est venu une première fois pour servir et offrir sa vie, en toute simplicité, en toute humilité. Mais quand il va revenir, c'est en tant que Seigneur, Maître, Dieu, Créateur, qu'il va apparaître dans la manifestation de sa puissance. Alors, la première venue, en Marc chapitre 10, verset 45, il nous est dit, « Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Mais concernant son retour, le Seigneur Jésus-Christ prophétise les choses suivantes. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Vous voyez, une autre présentation. Et en Matthieu chapitre 24, verset 27, il est dit « Comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Manifestation cosmique. Ça va être quelque chose. Hein. C'est notre espérance. Alors c'est bienfaisant quand on discute avec des amis non chrétiens, mais on leur dit mais quelle est votre espérance ? Oh, gagner de l'argent, trouver l'amour, réussir ma vie, ouais, quoique, ça me paraît bien difficile, quand on voit le monde et tout, mais nous, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, mais nous, on attend le Seigneur. Puis on vit avec lui chaque jour, puis il a changé nos vies. Alors je me trouvais pas très loin, mardi dernier j'étais à l'église des Gobelins, rue des Gobelins, c'est à plusieurs centaines de mètres d'ici. Mais quelqu'un m'a dit, mais Jean, comment as-tu connu cette église ? Mais j'ai raconté comment le Seigneur, à l'âge de 17 ans, pour la première fois de ma vie, m'a amené dans cette église des Gobelins. Là. Et puis ils étaient tout étonnés de voir comment le Seigneur pouvait sauver des personnes. Et quand je leur ai dit que j'avais mis les pieds dans leur église alors que je n'étais pas du nouveau, et qu'il y avait des centaines de jeunes à cette époque-là, dans ce petit local-là, ils m'ont dit « Oh là là, c'était le bon temps, mais ça n'a pas changé. Il y a toujours des gens que Dieu veut sauver, il y a toujours des personnes qui cherchent le Seigneur. Mais c'est nous les chrétiens. Vous savez ce qu'a dit un non-chrétien un jour, il y avait une analyse un peu... C'est Bill, comment c'est cet Américain qui a fondé une énorme église là. J'ai oublié son nom, Bill, je ne sais plus quoi. Il écrit dans un de ses livres qu'un jour il amène un de ses amis dans son église, où il était pasteur. Et alors, à la fin du culte, il lui dit, alors, comment t'as trouvé le culte et tout. Et le gars lui a dit, c'est super les chants, tout ça, c'est super. Mais je ne voudrais pas te faire de peine. Mais je tiens à te dire que je n'ai vraiment pas envie de ressembler à toi. Et là, ce pasteur, il est rentré chez lui, et il s'est dit, mais quel message il vient de m'envoyer ? Moi, je suis un chrétien, je veux communiquer l'évangile. Et puis voilà que j'invite un ami qui me dit, tout c'est bien les cantiques, tout la musique, mais je n'ai pas envie de te ressembler. Et alors, je cherche toujours son nom. Et alors, c'est ce pasteur à qui Dieu a donné un magnifique ministère à l'heure actuelle, il a changé son approche. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que le Seigneur me propose pour arriver à avoir des hommes et des femmes se convertir ? Et il a compris qu'il fallait qu'il rentre dans les vérités de Dieu et qu'il en vive, qu'il puisse les communiquer, entre autres cette espérance du retour de Christ, cette délivrance du péché, cette joie, cette plénitude du Saint-Esprit. Et alors du coup, cet ami qui n'avait pas envie de lui ressembler, si je me souviens bien dans le livre, quelque part, bien de quelques temps après, il est venu au Seigneur. Et nous allons donner envie aux autres avec ce qui représente vraiment notre espérance, nos certitudes, notre joie. Et oui, le retour de Christ n'est pas n'importe quoi. Alors, la question évidemment qui se pose, c'est quand cela arrivera-t-il ? Cette question a été posée d'ailleurs par les disciples sur le mont des Oliviers en Matthieu chapitre 24. Quand ils ont dit, mais quels seront les signes de ton avènement ? Quand cela arrivera-t-il ? Alors il est dit que Pierre dit au deuxième épître chapitre 3, versets 3 et 4, il dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui diront, où est la promesse de son avènement ? N'a-t-il pas promis de venir bientôt ? Et pourtant, les siècles passent. Et l'apôtre va répondre à cette objection. Et il va dire les choses suivantes. Il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Dieu mesure et maîtrise toutes choses. Et ce que Dieu a dit... Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et nous ne devons pas nous laisser troubler par tout ce qui se passe autour de nous. Et cette attente, beaucoup plus longue que prévue, je dis cela parce que Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, il va dire « Nous les vivants, nous serons enlevés ». Vous voyez, il se disait « ça va arriver prochainement ». Nous les vivants, nous serons ensuite enlevés. Et puis ensuite, dans d'autres épîtres, l'apôtre a mesuré que le temps serait peut-être un peu plus long que ce qu'il avait envisagé au départ. Les hommes veulent savoir quand le Christ reviendra, mais Jésus n'a pas donné de réponse précise. Il a dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, mais le Père seul », en Matthieu chapitre 24, verset 36. Et il rajoute « Ce n'est pas à vous, ajoute-t-il pour ses disciples, de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et le Seigneur nous dit que ce jour viendra de manière inattendue, comme un voleur dans la nuit. Je sais pas si, enfin, j'espère que vous n'avez jamais été cambriolé, mais ma maman a été cambriolée il y a quelques années, et elle m'a dit « Je suis parti en course, je suis revenu, et voilà, la fenêtre de la cuisine était ouverte, et quelqu'un était rentré dans la maison, il y avait des traces de chaussures sur le rebord de la fenêtre, etc. » Et puis, tout avait été renversé dans l'armoire, le linge, tout, parce qu'ils cherchent toujours de l'argent. À cette époque-là, ils croyaient que tous les gens mettaient leur argent dans leurs chaussettes, là, ou dans l'armoire. Et donc, tout avait été retourné sans dessus-dessous. Et ma mère n'était pas chrétienne à l'époque. Elle m'a dit, tu te rends compte, on ne sait jamais quand est-ce qu'un voleur va venir. Bah, évidemment, il ne va pas téléphoner pour vous dire, j'arrive. Et le Seigneur dit, ce jour va venir comme un voleur. C'est-à-dire que nous, on va pas imaginer que le Seigneur va revenir. On va peut-être même l'oublier. Ou alors on va calculer, on va se dire, oh, vu les événements mondiaux, il faut encore attendre que ceci ait lieu, que cela se passe, enfin, se produise, etc. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Elle nous dit, il va revenir comme un voleur. De là, un appel à une vigilance, tout simplement. Et c'est pour cela qu'un homme qui a marqué l'histoire du protestantisme anglo-saxon, Witherfield, a écrit la chose suivante. « Je me dis en me levant chaque matin, aujourd'hui est peut-être le jour de son retour. » Je ne sais pas à quoi vous pensez quand vous vous levez le matin. Si le jour du retour de Christ, si vous pensez au jour du retour de Christ. Mais voilà George Witherfield qui disait cela. Je me dis en me levant chaque matin, aujourd'hui est peut-être le jour de son retour. Évidemment, il y a eu des instructions qui nous ont été données, des signes, hein, les signes des temps. Jésus et les apôtres donnent certains signes devant marquer l'époque de la fin des temps. Et sous réserve d'erreur, nous pouvons néanmoins, en toute humilité, penser qu'à la lumière des signes prédits par l'Écriture, Jésus pourrait réellement revenir pendant notre génération. Après tout, quand on regarde les événements qui se produisent, Jésus pourrait revenir. Pensez à ces signes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura par endroits des tremblements de terre et des famines. On portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. Vous savez que les chrétiens, c'est les citoyens chrétiens dans le monde, c'est la religion la plus persécutée, c'est les chrétiens. Et je ne sais pas si vous recevez des nouvelles quotidiennes sur les persécutions des chrétiennes, mais c'est terrible. Nous, on est bien heureux ici en France, pour le moment. Mais dans certains pays, c'est tout en permanence que les gens sont persécutés. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Il y aura une grande détresse. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. Luc chapitre 21, versets 23, 25, 27, 28, ce que je viens de vous lire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. Dans les églises où je suis invité, j'entends deux voix comme ça. Il y a un groupe de chrétiens qui disent « Oh là là, dans quel temps vivons-nous? C'est terrible. On ne peut plus annoncer l'évangile et puis il n'y a plus de valeur et puis ci et puis ça. » Puis ils sont accablés. Et puis il y a l'autre groupe chrétien qui dit « La délivrance approche. Relevons nos têtes et continuons d'annoncer l'évangile. Persévérons envers et contre tout. » D'ailleurs, en général, c'est dans les pays où l'Église est persécutée que les chrétiens se développent. Et dans nos églises, dans nos pays confortables, je veux dire, c'est là où on a le plus de difficultés. Vous vous rendez compte? Alors qu'il y a tellement de choses à dire, à partager à nos concitoyens. Votre rédemption, rédemption ou délivrance, hein, c'est un synonyme, approche, est-il dit en Luc chapitre 21, verset 28. Passant par ces secousses de la fin des temps, le chrétien se réjouira de l'espérance du retour de Christ, de le voir un jour paraître. Ce sera le jour de l'achèvement de notre salut, la rédemption de notre corps. Car, comme dit Paul aux Romains, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas rentrés dans la totalité de notre salut. On attend véritablement cette réalisation complète. Alors, nous sommes sauvés avec certitude. Espérance en grec, c'est l'équivalent de certitude. La certitude d'être sauvés, mais on est dans l'espérance, puis on est dans l'attente de la manifestation finale et glorieuse de l'apparition de notre Sauveur. Comme je l'ai noté ici, il faut dire que notre salut attend encore sa réalisation pleine et entière. Bien que nous soyons dès à présent sauvés, nous avons le salut de notre âme qui, à la mort, rejoint le Seigneur au ciel. Mais quand Jésus reviendra, nous aurons le salut de notre corps. Les croyants décédés qui sont morts en Christ, nous dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 18, vivront la résurrection. Ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement sortiront des tombes, ayant revêtu l'immortalité. Et nous aurons un corps glorieux, exempt de péché, de maladie, d'imperfection. Semblable d'ailleurs, comme le dit Paul aux Philippiens, au chapitre 3, verset 21, semblable au corps glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre corps ne sera plus corruptible, mais incorruptible. Non plus infirme, mais plein de force. Alors, pour partager la parole du Seigneur dans des maisons de retraite, je peux vous dire que quand vous parlez de ça aux personnes qui sont handicapées, qui ont 95 ans ou plus, qui sont dans fauteuil roulant, qui sont diminuées comme ce n'est pas permis, mais qui ont toute leur tête, quand vous leur parlez d'un corps incorruptible, ça les fait bondir, hein, intérieurement, de joie. Mais quand on est bien portant, on se dit, hey, ça va bien notre corps, c'est pas mal quand même. Hein. J'ai de la force, je suis sûr de ces jeunes chrétiens. On est fort, on est intelligent, on a l'avenir devant nous. Bah, c'est vrai, c'est incontestable, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est un petit peu court pour des chrétiens. Il faut se laisser véritablement vivifier par la parole de Dieu qui nous annonce des choses extraordinaires et pas se contenter d'être présent en se disant « Oh, allez, j'ai 25 ans, j'ai théoriquement quand même pas mal de décennies encore à vivre. » On ne sait pas. D'une part, on parle et ensuite la parole nous invite à une véritable jubilation spirituelle face à ses promesses. Et nous, écrit l'apôtre Paul, les chrétiens vivants lors de ce jour extraordinaire, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Voilà comment Paul exprime sa certitude à l'époque d'un retour de Christ relativement rapide. Et puis ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit va lui faire comprendre que ça pourrait prendre peut-être un peu plus de temps, ce qui est là. Lors de cet enlèvement de l'Église, notre corps sera enlevé et transformé pour ressembler au corps ressuscité de Christ qui monta à l'ascension. Vous vous rendez compte, si on est vivant, si le Seigneur revient aujourd'hui, la boum, on part. Ben, ceux qui sont nés de nouveau parmi nous vont partir. On va traverser le plafond en bois, là, et les pierres et tout, ça va être quelque chose. Ben, ça me plairait, moi. J'aimerais bien monter avec vous, là. Il est dit dans les Saintes Écritures, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il va y avoir toute une action divine pour rassembler son peuple. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux personnes assises sur un banc en bois d'un temple luthérien, j'ose espérer qu'il y en a deux, ces deux-là partiront dans le ciel. Mais il faut se poser la question cet après-midi. Êtes-vous réellement né de nouveau? Êtes-vous sauvé? Avez-vous la certitude dans votre cœur et dans votre âme, basé sur la vérité des Saintes Écritures, que le jour où le Seigneur va revenir, si vous êtes vivant, vous allez partir à sa rencontre? En un mot, êtes-vous sauvé? C'est la question importante que vous devez vous poser et vous devez y répondre dans le secret de vos cœurs devant Dieu. Sinon, si vous ne pouvez pas dire « Oui, je suis sauvé, parce que le Christ a payé le prix de mes péchés, j'ai placé ma confiance en lui, je lui appartiens pour l'éternité », si vous ne pouvez pas dire cela en toute liberté, avec assurance, il faut absolument vous tourner vers Dieu, vous réconcilier avec lui pour recevoir ce salut merveilleux et gratuit. L'apôtre Paul résume ces vérités rassurantes de manière simple et claire en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 et 17. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Quelle perspective glorieuse pour chacun de ceux qui sont nés de nouveau. Nous pouvons bien, comme le dit l'apôtre, nous consoler les uns les autres par ces paroles, par cette espérance. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et qu'il manifeste sa gloire dans nos vies. Amen.